Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En septembre 1971, paraissait chez Champ Libre un livre de Simon Leys intitulé « Les habits neufs du président Mao ». Comme l'enfant du comte d'Andersen auquel il empruntait son titre, le sinologue s'y employait à dénoncer l'imposture maoïste, le caractère répressif et fascisant du régime, ce à une époque où les intellectuels européens, français en tout premier lieu, avaient tendance à l'idolâtrer. 2 ans plus tard, paraissait « Ombre chinoise », rédigée au retour d'un séjour en Chine, puis en 1976 « Images brisées », un recueil d'articles politiques, nécrologiques ou polémiques. Peu après, Simon Leys, de son vrai nom Pierre Ricmans, était l'invité sur France Culture d'une après-midi de programme proposée par Claude Udolo. Après avoir retracé son parcours dans un autoportrait radiophonique émouvant, il participait à une table ronde consacrée à la situation politique de la Chine, alors en pleine crise de succession, un peu plus d'un an après la mort de Mao. Il y évoquait son amour d'un pays dont il connaissait parfaitement la langue, l'histoire, la littérature et les arts, et dont il savait transmettre la passion. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 janvier 1977.
Image brisée, page 189. Il ne saurait y avoir de mauvaises raisons pour s'engager dans les études chinoises. Et si, chaque année, c'est la ferveur maoïste qui nous amène une bonne moitié de nos nouveaux étudiants, eh bien, dans cette mesure, vive le maoïsme. Je serais d'autant moins enclin à les décourager que je retrouve chez eux, en partie, le point de départ de mon propre itinéraire. Simon Leys.
Le point de départ, en effet, de mes études chinoises, c'était en 1955. J'avais 19 ans, j'étais étudiant à l'université, je m'occupais nullement de la Chine, je ne savais rien de la Chine, mais je m'occupais d'un journal d'étudiants. Et à ce moment-là, j'ai eu une invitation pour aller en Chine, donc comme membre d'une délégation de la jeunesse et à titre de rédacteur de ce journal d'étudiants. Et j'étais absolument pas prêt à faire ce voyage en Chine. Oui, j'ai lu en hâte quelques bouquins juste avant de partir. Et alors pendant un mois, donc, nous nous sommes promenés en Chine, 10 jeunes types en 55. C'était une très belle époque d'ailleurs, 55. C'était une époque encore où il y avait un immense enthousiasme. Il y avait une ferveur, une jeunesse, un sentiment de dynamisme créateur en Chine. Et alors pour moi, ça a été un choc absolument bouleversant, ce voyage. Je m'en souviens comme on se souvient d'un film qu'on a vu. C'est une succession d'images très belles, fascinantes, touchantes, exaltantes. Mais ce sont des images à 2 dimensions. C'est pas en relief. Justement, parce que je faisais ce voyage comme un sourd-muet, je ne savais pas parler la langue. Et j'avais un tel sentiment de frustration à ne pas pouvoir communiquer directement avec les gens. J'avais le sentiment qu'il y avait là un tel foisonnement humain, une telle richesse de choses à découvrir, à connaître, à comprendre, mais que tant que je ne comprendrai pas la langue, je ne passerai pas de l'autre côté, je n'entrerai pas à l'intérieur. Et cette frustration intense au cours d'un mois, jointe à un très grand sentiment d'enthousiasme et d'intérêt et de passion, m'a déterminé donc à apprendre le chinois. Et je ne l'ai certainement jamais regretté depuis. Mais alors, évidemment, les hauts moments du voyage, c'était des choses comme une entrevue avec Zhou Enlai, qui a bavardé avec nous pendant une heure. Et vous pouvez imaginer ce que c'est pour 10 jeunes types qui sont rien du tout, quoi, qui ne savent rien à rien. À quel point ça peut être bouleversant d'avoir cette entrevue avec un homme comme Zhou Enlai, qui, évidemment... Or, tout cela combiné, évidemment, faisait un mélange extrêmement capiteux. Mais je ne le renie pas, certainement. Du reste, à cette époque-là, c'était très impopulaire d'aller en Chine populaire. J'ai failli être envoyé de l'université parce que j'avais fait ce voyage. Et parce qu'à l'époque, ce que j'ai écrit au sujet de la Chine et qui était très positif et très enthousiaste, et encore, je ne renie pas les choses enthousiastes que j'ai écrites à l'époque, car c'était une époque enthousiasmante. Ça, tous les amis chinois avec qui je bavarde et qui se rappellent de cette période disent la même chose, qu'à ce moment-là, on y croyait. C'est la grande différence d'avec aujourd'hui. Et la dernière visite que j'ai faite en Chine, en 73, j'étais avec une collègue qui est née et élevée en Chine, qui n'a connu rien d'autre que la Chine jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle est sortie de Chine à l'âge de 25 ans. Et qui revoyait la Chine pour la première fois. Donc elle avait quitté la Chine au milieu des années 50 et elle la revoyait pour la première fois en 73. Et elle était absolument soufflée, estomaquée, de voir que rien n'avait changé. Elle avait connu essentiellement la Chine d'avant la libération. Elle était sortie juste après, peu après la libération. Et ce qui l'estomaquait le plus, ce qui la surprise, la façon la plus radicale, c'est que c'était la même chose. La même chose au niveau épidermique, ce que vous voyez quand vous flânez dans les rues.
Mais la Chine en construction, mais la Chine qui mange à sa faim.
La Chine en construction, la Chine qui mange à sa faim. La Chine qui mange à sa faim est quand même un énorme point d'interrogation. Je veux croire et j'espère et je souhaite de tout cœur que c'est un des plus grands accomplissements du régime actuel d'assurer l'alimentation adéquate de la population chinoise. Mais finalement, on n'en sait pas grand-chose quand même. Il y a cet énorme trou dans les calculs démographiques qui correspond à la famine qui a suivi l'épisode du Grand Bond en avant. Des chercheurs sérieux ont avancé des chiffres de 40 millions de morts à la suite des famines du Grand Bond en avant. Des chercheurs sérieux ont fait des travaux et ont montré, par exemple, qu'il y avait des cas de cannibalisme assez répandus en Chine, même encore à la fin des années 60. On a tant d'informations contradictoires sur ce sujet que même sur une question aussi fondamentale que celle-là, les Chinois mangent à leur faim, je n'oserais pas tirer immédiatement les conclusions aussi catégoriques que beaucoup d'autres personnes tirent. Je l'espère, je le souhaite de tout cœur. Et c'est certainement là-dessus que finalement que le régime tiendra ou croulera. Je pense que c'est le critère ultime. Mais la période la plus dangereuse pour le régime a été un moment, la suite du grand bond en avant, où justement, quand le paysanat s'est trouvé affamé, on est arrivé au bord du chaos. À ce moment-là, le peuple chinois, qui d'une patience infinie peut à peu près tout endurer de la part de ses dirigeants, il en a enduré assez pendant plus de 2000 ans, mais quand vient la famine, quand ses dirigeants ne peuvent plus lui assurer cette survie matérielle de base, alors là, plus rien ne tient. On commence par piller les greniers d'État, etc. Et puis alors, de fil en aiguille, on arrive au chaos politique.
Quel est votre critère du chercheur sérieux ?
Les gens qui, d'abord, savent le chinois, savent la langue chinoise de façon à pouvoir utiliser les sources chinoises de première main, qui sont la presse chinoise, la presse officielle et, plus importante encore, la presse provinciale. La presse provinciale, il est difficile pour nous la procurer, quoique on se la procure quand même par le marché noir bien organisé à Hong Kong. Mais il y a surtout le système, le substitut à la presse provinciale, qui sont les émissions radio provinciales. C'est un travail énorme. Il faut enregistrer toutes les émissions des différentes stations provinciales. Et puis alors, c'est très fastidieux. Il faut tout entendre, tout éplucher et confronter les sources. Et alors, une autre source très importante, c'est interroger, parler avec les gens qui sortent de Chine. Et ça, c'est une source absolument, une source d'information absolument capitale. Ce sont les seuls Chinois avec qui nous pouvons parler, ce sont les Chinois que nous rencontrons hors de Chine. Ces mêmes personnes, si nous les rencontrons en Chine ne peuvent être que des porte-parole officiels du gouvernement. Ce n'est que hors de Chine qu'ils peuvent parler en leur propre nom et émettre alors un éventail très nuancé, très large et très subtil de réflexions, de critiques, d'observations sur le système tel qu'il fonctionne.
On devient un China Watcher à ce moment-là.
Tout dépend du sens que vous donnez au mot China Watcher, c'est qui est un mot parfois avec qui a des sens assez obscènes. Quelqu'un le traduisait en disant les voyeurs. Et c'est un terme qui dit assez bien ce qu'il veut dire. Tout dépend des motivations que poursuit la personne qui interroge et de la façon dont il interroge. Personnellement, l'analyse de l'actualité politique chinoise n'est pas mon métier. Et toutes les conversations que j'ai eues avec des Chinois à Hong Kong sont des conversations qui sont nées simplement sur la base de l'amitié et de rencontres fortuites, d'amis qui vous en font connaître d'autres. Et alors de gens qui ont tellement de choses à vous dire et qui ont tant de passion et qui sont en même temps muselés, qui n'ont pas de tribune, qui ne peuvent pas se faire entendre... on se sent l'obligation et le devoir de prêter une voix à ces gens qui n'ont pas de voix et de donner une tribune à ces gens qui n'ont pas l'occasion de se faire entendre, d'être simplement leur traducteur et leur interprète, leur intermédiaire auprès d'une audience plus large.
Mais certains journalistes disent que si vous rencontrez ces gens-là, c'est parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez plus aller en Chine, par exemple.
Oui, ça c'est un point de vue très intéressant. D'abord, le journaliste qui a dit ça, je ne sais pas d'où il tient que je ne peux plus rentrer en Chine. C'est une question, personnellement, je n'ai plus fait de demande de visa depuis 1973. Et d'après certains échos que j'ai reçus récemment, il semble bien que les possibilités pour moi de recevoir un visa sont loin d'être exclues dans le futur. Mais enfin, c'est une question dans laquelle je ne vais pas entrer pour le moment. La raison pour laquelle j'ai bavardé avec ces gens à Hong Kong, d'abord c'est parce que j'étais à Hong Kong et que je les ai rencontrés, mais ensuite parce que si j'étais retourné en Chine récemment, je n'aurais pu faire que répéter ce que j'avais déjà fait. Je sais d'avance qui j'aurais vu, ce qu'on m'aurait dit, ce que j'aurais fait, etc. en Chine. Donc ce n'était pas la peine de refaire une chose que j'avais déjà faite 7 ou 8 fois juste avant. Ce que les amis que je rencontrais à Hong Kong pouvaient m'apporter est absolument irremplaçable et personne d'autre ne pouvait me l'apporter. Et c'est précisément le complément à tout ce que j'avais dit et décrit avant. Ce que j'avais dit et décrit avant, c'est ce qu'un étranger peut voir et faire en Chine. Maintenant, ce que je voulais faire, ce que j'ai fait à Hong Kong, c'est dire ce que les Chinois ont réellement à nous dire au sujet de la Chine et qu'ils ne peuvent pas nous dire quand ils sont encadrés par les interprètes et par les officiels gouvernementaux.
Et que disent-ils ?
Mais ils disent, justement, c'est là que le terme réfugié est tellement source à malentendus. Le terme réfugié est d'abord inadéquat parce qu'une partie d'entre eux ne sont pas des réfugiés. Il y a parmi eux des gens qui sont sortis avec des papiers en règle. Il y a des gens qui sont sortis avec des papiers en règle du côté chinois, mais pas de papiers en règle du côté Hong Kong. Et l'inverse, il y a des gens qui sont sortis avec des papiers en règle de l'un et de l'autre côté. Il y a des gens qui sont sortis avec des papiers en règle d'aucun des deux côtés. C'est un éventail extrêmement vaste et diversifié. Il y a des ouvriers, il y a des intellectuels, il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a des jeunes, il y a des vieux. Il y a des mécontents, il y a des opposants, il y a des gens qui regrettent la Chine populaire, il y a des gens qui demandent à retourner en Chine populaire après une expérience négative à Hong Kong. Donc, il y a une immense diversité que le terme réfugié qu'on veut coller dessus, l'étiquette commode qu'on colle dessus, cherche à oblitérer, à escamoter. Il y a une immense diversité, et c'est seulement la diversité du peuple chinois, des gens de tous les âges et toutes les conditions, et avec donc des points de vue extrêmement variés sur le régime. Parfois des points de vue critiques, parfois des points de vue approbateurs. Il y a là une diversité. Mais ce qui les caractérise dans l'ensemble, c'est qu'ils parlent pour eux-mêmes. Ils disent ce qu'ils pensent. Chose qui n'arrive jamais en Chine populaire, qui est exclue en Chine populaire. Et là, nous avons du reste tant de témoignages, de documents. D'abord, Il y a les documents officiels, un document officiel qui a été publié maintenant en Occident. Vous le trouvez d'ailleurs dans le livre « Regard froid sur la Chine » qui est sorti récemment, un document très amusant et très intéressant. Circulaire officiel du gouvernement chinois à tous les niveaux de l'administration sur la façon de traiter les étrangers, comment il faut se comporter à l'égard des étrangers. Ben là, c'est un document à lire, ça prend juste 2 pages, mais ça vous dit tout. Il faut empêcher que la population ait des contacts avec les étrangers et des contacts libres et leur dise ce qu'ils pensent. Ou les gens qui sont en contact avec les étrangers professionnellement doivent être formés pour cela. On les prépare. Et ceci m'a d'ailleurs été recoupé par une chinoise, un écrivain très remarquable, dont je suis en train de traduire les œuvres pour le moment. Je crois que c'est la première grande œuvre littéraire qui a été produite par la Chine, au sujet de la Chine contemporaine. C'est une femme qui est sortie de Chine il y a 2 ou 3 ans et qui maintenant commence à écrire. Elle est écrivain et elle commence à écrire ses expériences de Chine populaire sous forme de romans et de nouvelles. Des documents absolument fascinants. Son nom est Chen Zhu aussi. Et elle a choisi la forme du roman et de la nouvelle justement pour exprimer cette ambiguïté. Ce qu'un Chinois a expérimenté en Chine au cours des années est tellement complexe, est tellement polyvalent, qu'il lui est impossible ou qu'il lui est difficile de s'exprimer d'une façon discursive, théorique. Pour nous, c'est facile d'écrire des essais sur la Chine. Qu'on soit maoïste ou anti-maoïste, c'est pas difficile. Parce que, de nouveau, c'est à 2 dimensions. Nous ne l'avons pas vécu, finalement. C'est pas viscéral chez nous. Ça reste, malgré toute la passion qu'on peut avoir, l'intérêt qu'on peut y avoir, c'est resté pour nous, hélas, un spectacle. Ce n'est pas une chose que nous avons éprouvée dans notre chair, physiquement, concrètement, quotidiennement. Pour les Chinois qui l'ont expérimenté, il n'y a pas moyen de réduire cela à un discours théorique. Et là, le roman, la nouvelle, la création littéraire est un moyen privilégié pour exprimer cette ambiguïté. Parce que dans le roman, dans la nouvelle, vous ne passez pas de jugement. Vous mettez des caractères en action, vous les mettez dans des situations et vous les voyez réagir à ces situations de façon diverse et paradoxale et complexe. Pour en revenir à mon point de départ, justement, dans une de ces nouvelles où elle décrit, qui part d'un incident vécu au moment où elle enseignait à l'université de Nankin, on avait annoncé que le groupe des journalistes qui était dans la délégation, la visite de Nixon, allait venir pour visiter Nankin. Et alors, d'abord, on prépare tout le monde à la venue de Nixon. On leur explique pourquoi Nixon vient en Chine. Il vient pour supplier qu'on lui accorde la paix. Nixon vient parce qu'il se sent aux abois et il n'a plus d'autre recours que de demander l'aide de Mao Zedong pour que Mao Zedong protège la paix, etc. Bon, pendant plusieurs mois, on leur ressasse ce thème. Et puis quand vient le grand jour, quand le lendemain, probablement, les journalistes vont arriver, plusieurs jours avant, les journalistes arrivent à Nankin, on commence à distribuer dans la population, dans les rues où les journalistes vont passer probablement, des petits questionnaires avec les questions possibles que les journalistes risquent de poser et les questions possibles et les réponses à fournir à ces questions. Donc tout le monde doit étudier plusieurs jours à l'avance les réponses qu'il faut donner aux journalistes. Et puis, pour surcroît de prudence, on fait savoir à tous les membres de l'université, dont Chen Zhu aussi, que ceux qui ont eu des connexions avec les États-Unis, ceux qui ont vécu aux États-Unis, comme c'est le cas de Chen Zhu aussi, qui parle anglais couramment, feraient mieux de rester à leur place ce jour-là, qu'ils n'aillent pas faire le malin, qu'ils ne se croient pas plus malins que les autres. En clair, ça veut dire rester à la maison. Et alors, Chen Zhu aussi et un ou deux collègues qui sont dans le même cas qu'elle prennent l'engagement formel que ce jour-là, ils n'iront même pas au marché, ils n'iront même pas faire leur marché, qu'ils resteront à la maison, qu'ils n'iront pas dans les rues pour éviter tout danger d'être en contact proche ou lointain avec des journalistes qui parlent la même langue qu'eux. Ce qui vous donne un peu une idée du type de contact qu'on a en Chine populaire.
Ça, c'est un exemple, mais plus profondément, on pourrait se poser la question de savoir comment les Chinois savent ce qui se passe en Occident. Et vous vous dites qu'il n'est pas nécessaire qu'ils apprennent autre chose que ce qu'ils savent, parce que, d'une certaine manière, ils savent tout.
Là, de nouveau, il faut distinguer les deux niveaux, comme toujours en Chine, il y a toujours deux niveaux. Le niveau officiel et le niveau réel, le niveau de la vie des gens, le niveau des mandarins et des bureaucrates, et le niveau du peuple, le niveau des dirigeants et le niveau des dirigés. Au niveau des dirigeants, c'est là que s'applique ce que j'avais écrit. Pour les dirigeants, ils savent tout parce qu'ils l'ont lu dans le quotidien du peuple et ils redoutent plutôt d'être exposés, d'être soumis à des vérités, ou plutôt à des mensonges, de leur point de vue, qui ne sont pas prévus par le catéchisme. Au niveau de la population, c'est beaucoup plus subtil. Il y a quand même un assez large degré d'information sur ce qui se passe dans le monde extérieur. Les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas bêtes, d'abord. C'est ça l'essentiel. Ils sont subtils. Et il y a quand même certains canaux d'information. Hong Kong, Canton, est un canal majeur. Il y a quand même des dizaines de milliers de gens de Hong Kong qui vont visiter leur parentèle dans toute la province du Canton. Et alors, à partir de là, ça fait tache d'huile. Et ça fait quand même une information du monde extérieur. Puis il y a la radio aussi, les transistors. Il semble que les gens écoutent pas mal quand même les émissions venant de l'extérieur. Aux époques où le gouvernement a un contrôle plus strict, c'est évidemment une chose sévèrement réprimée d'écouter les radios étrangères, mais à d'autres périodes, les contrôles se relâchent. Et puis alors, il y a eu des brusques périodes d'anarchie qui ont permis une liberté d'information assez grande. La révolution culturelle en a été une, par exemple. Ça, c'est un leitmotiv dans les conversations qu'on a avec les gardes rouges. Ils parlent de tout ce qu'ils ont appris au moment où ils allaient piller les bibliothèques. Durant la révolution culturelle, donc, on brûlait tous les livres. On allait, les écoliers, piller la bibliothèque de leur école, piller la bibliothèque de leurs enseignants, piller les bibliothèques des bourgeois de la ville où ils habitaient, et entasser tous les livres dans la cour de l'école ou dans un endroit quelconque, qu'ils gardaient soigneusement eux-mêmes. Eux montaient la garde devant ces piles de livres qui attendaient d'être brûlés. Comme brûler des livres n'est pas une chose si facile, ça ne brûle pas si vite et pas si facilement, il faut en faire un grand tas, attendre d'en avoir un grand tas, et puis y mettre l'essence, etc. Donc on attendait parfois plusieurs jours avant de mettre le feu aux nouvelles piles ainsi amoncelées, piles dont les gardes rouges avaient eux-mêmes la garde. Et alors, les gardiens en profitaient pour, la nuit, aller sur le tas, choisir les bouquins qui les intéressaient. Par exemple, quand il y avait des gars qui s'intéressaient surtout aux beaux-arts, des étudiants des beaux-arts, ils allaient piquer les livres d'art. Ceux qui s'intéressaient à la politique allaient publier des livres, etc., etc. Et à ce moment-là, ils ont lu des tas de choses dans des domaines très divers. Ils sont constitués pour eux-mêmes des espèces de petites bibliothèques clandestines qui leur ont permis une information très hétéroclite, très, très chaotique et diverse, mais curieuse et parfois très frappante. Très curieux de voir, par exemple, ça revient aussi chez plusieurs gardes rouges qui ne se connaissaient pas les uns les autres, c'est un leitmotiv aussi, l'intérêt qu'ils avaient développé pour Hitler, par exemple, et la période de la Seconde Guerre mondiale. On se demande, pour des jeunes gens, des jeunes gars qui avaient 15 ans en 66-67, c'est d'un autre monde et d'une autre époque, mais c'est extraordinaire et symptomatique de voir cette fascination pour le caractère et la personnalité de Hitler. Et une fascination très ambiguë. Ils ne savent pas très bien qui est Hitler, mais ils ont l'impression que ça devait être un gars formidable, d'une certaine façon. Il y a là cette tendance fasciste qui est absolument extraordinaire, inquiétante et significative chez de nombreux, surtout parmi certains leaders de ces mouvements des gardes rouges au moment de la révolution culturelle.
Mais cette fascination, vous l'attribuez à quoi ?
Je pense, de façon générale, il me semble la réponse évidente, c'est un phénomène maoïste. Le phénomène, la révolution culturelle est quand même l'époque qui a permis ce culte absolument dément du leader suprême, le leader suprême dont on obéit toutes les directives, quand on les comprend et dont on obéit toutes les directives, même quand on ne les comprend pas. S'il y a un principe fasciste, c'est bien celui-là. Mais c'était le principe maoïste par excellence, celui qui avait été proposé par Lin Biao, qui est maintenant évidemment désavoué comme on désavoue tout Lin Biao, mais il ne faut pas oublier que la révolution culturelle n'a été rendue possible que grâce à Lin Biao. Sans Lin Biao, il n'y a pas de révolution culturelle. C'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Et là, je crois, j'en reviens de nouveau à l'analyse de Li Zhe, le fameux samizdat chinois, est absolument d'une lucidité éclatante. C'est que son analyse du système Lin Biao, c'est en fait une analyse du système maoïste.
Qui a été traduit en français sous le titre « Chinois si vous saviez ».«
Chinois si vous saviez ».
Alors vous parliez du moment où, pendant la révolution culturelle, on a brûlé les livres. Mais ça existait avant. C'est presque traditionnel en Chine, d'une certaine manière, non ?
Oui et non. C'est traditionnel, si vous voulez dire qu'on l'a fait il y a 2200 ans. C'est vénérable à cet égard-là. Mais enfin, cet épisode qui a eu lieu il y a 2200 ans est quand même un épisode qui est resté maudit dans les mémoires chinoises. Pendant plus de deux millénaires, c'est l'épisode de Qin Shi Huang, le premier unificateur de la Chine impériale, qui est une figure absolument d'une importance décisive et capitale, puisque c'est lui qui a fait l'unité chinoise, qui a donc eu un apport positif indéniable, puisque sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu de Chine. La Chine serait comme une Europe, ou si vous voulez dire inversement, l'Europe est une Chine qui n'a pas eu de Qin Shi Huang. Mais un personnage dont le gouvernement était tellement implacable, féroce et inhumain que sa mémoire a été maudite pour les millénaires qui ont suivi. Bien que beaucoup de ses recettes de gouvernement aient été adoptées par les dynasties successives, mais en les enveloppant d'une couche de sucre, en les accommodant d'une façon qu'ils rendent moins rébarbatifs et moins odieux pour la population. Mais alors, l'initiative pour laquelle Qin Shi Huang est resté illustre à travers les âges et a été stigmatisé à travers les âges, est justement cette entreprise qu'il avait faite de brûler tous les livres et d'enterrer vivant un groupe de lettrés de la capitale.
Et pourquoi brûler tous ces livres ?
Brûler les livres parce que les livres permettaient à la population de penser et que l'essentiel était, pour appliquer un vieux principe taoïste légiste, que ce qu'il fallait, c'est que la population lui fortifiait les muscles et lui vidait le cerveau, lui remplir le ventre et vider les cervelles. Et ce qu'il fallait, c'est un peuple robuste qui puisse fournir des paysans productifs, des soldats combatifs, mais surtout pas des gens qui pensent, surtout pas des gens qui réfléchissent, surtout pas des esprits critiques, qui, eux, alors, sont un élément de contestation pour le gouvernement impérial, qui seul détient tous les critères de vérité. Ce que vous avez, en fait, toute la formulation théorique du pouvoir de Qin Shi Huang, qui est un corpus de doctrine extrêmement élaboré, et qui est brillant philosophiquement, qui est, je pense, une des formulations philosophiques les plus éloquentes et les plus cohérentes et les plus brillantes qui aient jamais été faites du totalitarisme. C'est une analyse exacte des mécanismes du totalitarisme et comment ça doit fonctionner, quelles sont les conditions à réunir pour que cela fonctionne. Cette doctrine a fait extraordinaire, était reprise entièrement à son compte par le régime maoïste aujourd'hui. Il y a eu cette grande campagne lancée, commencée en 1973, par un article absolument abasourdissant du quotidien du peuple, qui était intitulé « Qin Shi Huang a eu raison de brûler les livres et d'enterrer les lettrés vivants ». Et c'est une chose qu'aucun régime n'avait jamais osé faire auparavant. Il y a eu juste une aile fasciste du Kuomintang, les chemises bleues, qui, à l'époque des années 30, se revendiquait de Qin Shi Huang, mais c'est un des seuls cas que je puisse voir dans l'histoire chinoise récente. d'un groupe politique qui se revendique délibérément de la politique légiste de la politique Tchin-Choran. Et ça a été l'originalité des maoïstes, du maoïsme, de réhabiliter la mémoire de Tchin-Choran et de donner une signification positive à ces initiatives qui, traditionnellement, avaient été considérées comme atroces et odieuses.
Je reviens à imagoriser l'un des aspects les plus intéressants et les plus peut-être discutables de votre livre, c'est le fait que vous dites à plusieurs reprises, pour continuer dans la comparaison entre les époques, que lorsqu'il y a épanouissement culturel, il y a chaos économique, et inversement.
C'est un phénomène qu'on constate à plusieurs reprises dans l'histoire de Chine, c'est un phénomène qui est à beaucoup d'égards tragique et angoissant, de voir que on souhaite évidemment à la Chine, tout le monde souhaite à la Chine et les Chinois en premier lieu, que le pays puisse être prospère et uni. Il n'y a rien de plus redoutable que le chaos politique, parce que le chaos politique justement entraîne les exactions de la soldatesque, la guerre civile, la famine et tout ce qui s'ensuit. Mais le prix à payer chaque fois de l'unité de la grandeur impériale semble avoir souvent été une certaine stérilisation intellectuelle, à des degrés divers. Hein. Le degré maximum d'unité et d'ordre a été atteint sous des régimes totalitaires, comme le régime de Tchin-Choran dont on vient de parler, et qui est un régime de stérilité totale au point de vue culturel. Alors vous avez des situations intermédiaires, l'époque des Han, deux siècles avant Jésus-Christ, deux siècles après Jésus-Christ. L'époque des Tang, depuis le début du 7e jusqu'aux toutes premières années du 10e.
Vous jugez sévèrement l'époque des Tang d'une certaine manière
Non, certainement pas. L'époque des Tang est quand même un des tout grands âges de la civilisation humaine. Ça, il n'y a pas de doute. C'est un âge sublime à beaucoup d'égards, et pour la Chine, et pour l'humanité dans son ensemble. Mais il n'y a pas de doute qu'à l'époque des Tang, quand même, c'est une époque qui a connu une certaine orthodoxie. Ce n'est pas une période répressive, mais c'est une période où il y a quand même un certain conformisme. Tandis qu'il y a d'autres périodes de création exubérante, où il y a une diversité, une diversification dans les lignes de réflexion qui sont entamées ou poursuivies. La période des royaumes combattants, juste avant l'unification des Qin, qui est une période extrêmement sombre au point de vue politique, période de chaos total au point de vue politique, mais le plus grand âge philosophique qu'a connu la Chine, l'âge des 100 écoles, l'âge où la Chine a élaboré des réflexions philosophiques dans les directions les plus diverses et les plus créatrices. Il y a eu l'époque des Six dynasties, une autre de ces périodes de chaos créateur, époque absolument déprimante au point de vue politique, de nouveau, mais d'une prodigieuse sophistication culturelle. Les royaumes combattants donc s'achèvent au moment où Tchin-Choran monte en scène, c'est-à-dire au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc vers 220 avant Jésus-Christ, c'est le moment où il s'achève. Disons le 3e siècle, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, la grande époque des royaumes combattants. Les six dynasties vont du 3e au 7e siècle, pratiquement. Une longue période de hiatus, de chaos, de rupture dans l'unité impériale. Comme je disais, période extrêmement déprimante politiquement, mais prodigieusement excitante culturellement. Quand nous arrivons à l'époque contemporaine, à l'époque moderne, ce qu'on a, c'est le même phénomène dans les années 20. Juste après la première révolution, l'établissement de la première république, une période absolument désolante, dont certainement personne ne souhaite le retour. Il faudrait être criminel pour souhaiter le retour de cette époque, quand on songe aux souffrances incalculables que cela a apporté à la population chinoise. Mais une période qui, au point de vue intellectuel, littéraire, artistique, a été une période d'intense expérimentation et de création. Vous voyez une période de jeunesse, d'ouverture, où vous voyez au fond tous les gens qui dirigent, qui donnent le ton à la vie culturelle chinoise, sont des gens qui ont 20 ans à peine, ou qui n'ont pas 30 ans. Et ce sont eux qui sont les créateurs, et qui sont des gens qui sont branchés, ouverts sur tous les courants intellectuels du monde entier, qui sont au fait de ce qui se fait partout dans le monde. qui sont des révolutionnaires authentiques et des esprits extrêmement profonds et riches d'une culture internationale.
Le premier d'entre eux, c'est Lu Xun.
Lu Xun, le premier d'entre eux, est le meilleur exemple de cette ouverture à tous les horizons du monde et en même temps de sens de ses responsabilités comme intellectuel révolutionnaire, comme critique du pouvoir. Et alors, on arrive à la République populaire qui accomplit enfin l'unité et l'ordre de la nation, qui met fin aux guerres civiles, qui rétablit qui met fin à ce chaos meurtrier, mais qui apporte aussi une stérilité dans l'ordre intellectuel. L'existence d'un Lu Xun en Chine populaire aujourd'hui est inconcevable. Je n'aime pas tracer de frontières trop précises entre la Chine ancienne et la Chine moderne, parce que précisément, ce qui est de prodigieux et de fascinant dans le cas de la Chine, c'est que la Chine est la plus ancienne civilisation vivante qui existe au monde. Quand on étudie la Chine ancienne, c'est pas comme si on étudiait l'Égypte ancienne qui est morte et à quoi un autre monde a succédé. Il y a une continuité entre la Chine ancienne et la Chine moderne. Il n'y a pas d'hiatus, il n'y a pas de rupture. C'est la même civilisation, c'est une métamorphose de la même civilisation, ce que nous voyons aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas faire trop nettement tracer une ligne entre les deux. Mais il est certain que je ne m'occupais pas de politique. J'étais parfaitement apolitique à cette époque-là. Simplement, j'avais cet immense intérêt, sympathie et passion pour la culture chinoise. Et mon intérêt était assez exclusivement culturel. Je m'occupais de littérature et de peinture, principalement. Une des réflexions les plus riches qui existent sur l'art de peindre est celle qui s'est poursuivie en Chine. Il y a plus de 1000 ans de réflexions qui se sont poursuivies. Il y a des centaines et des milliers de traités différents de peintres sur la peinture. Ça fait une littérature en soi, un corpus de littérature théorique sur la peinture qui est fascinant. Donc la philosophie de l'acte de peindre. Pourquoi peint-on? Quelle est la signification de la peinture? On peignait pour se cultiver soi-même. On peignait par une forme de discipline morale et spirituelle. On peignait par une sorte d'hygiène spirituelle. Peindre, c'était se mettre en accord avec la création cosmique, avec la création universelle. C'était se mettre en état d'eurythmie, en état de consonance, de résonance avec le processus de la création cosmique. La peinture chinoise est au centre de la culture chinoise. C'est quelque chose, comme je disais, quelque chose de sacré et d'essentiel. C'est donc une chose à quoi ils tiennent de façon toute particulière. Mais c'est aussi une chose qu'il est très difficile de protéger en adoptant la terminologie du régime actuel. Et on ne peut la protéger qu'au prix de certaines falsifications, certaines hypocrisies qui sont fécondes et utiles, puisque ça permet de protéger les œuvres. C'est-à-dire que toute œuvre d'art en Chine, pour satisfaire l'orthodoxie maoïste, doit être présentée comme un reflet du génie créateur du peuple travailleur. Alors, vous montrez la Grande Muraille, vous montrez la Cité Interdite. Bon, manifestement, il a fallu des milliers de travailleurs pour le bâtir. Donc, d'une certaine façon, bien que ça n'ait aucun sens, en fait, on peut dire que c'est une expression du génie créateur du peuple travailleur. On peut imaginer, effectivement, des milliers de gens en train de suer pour coltiner des pierres, etc. Bien qu'évidemment, la conception de la Cité Interdite, l'empilement des pierres en soi ne signifie rien, c'est la vision, nouveau la vision cosmique qui s'est incarnée dans les pierres, qui signifie tout et qui, elle, n'a pas grand-chose à voir avec les pauvres gens qui devaient coltiner les pierres. Mais alors, quand vous arrivez aux peintures chinoises, qui sont, qu'on le veuille ou non, pour le meilleur ou pour le pire, une création, il faut bien le confesser, une création absolument élitiste, c'est le fait d'une toute petite minorité, d'une élite dirigeante, aristocratique, qui jouissait de conditions privilégiées au prix de l'oppression du grand nombre, ça il ne faut pas s'en cacher, c'est certain, c'était cette petite minorité bureaucratique qui dirigeait le pays, qui jouissait de tous les avantages de la culture lettrée, qui a produit cette peinture, et qui seul en jouissait, seul pouvait la collectionner et la comprendre. Et ça pouvait représenter peut-être, je ne sais pas moi, 1% de la population chinoise. Alors là, il est très difficile de présenter ça comme ces œuvres absolument éthérées, secrètes, qui correspondent donc à une activité tout à fait privée de cette élite aristocratique. Il est difficile de présenter ça comme des œuvres réalistes, expression de la créativité du peuple travailleur. Mais si on ne le présente pas dans ces termes-là, on n'a pas le droit de les conserver. Cette peinture dont je vous parlais à l'instant, si belle et si riche, qui est une culture spirituelle, une culture personnelle, l'envers de la médaille, c'est qu'elle a, elle a opprimé, en un sens, elle a refusé de reconnaître l'existence de tout un art populaire, extrêmement riche et savoureux, et à qui elle n'a pas accordé droit d'existence, dont elle n'a pas enregistré l'existence dans les textes écrits, dans l'historiographie. Mais nous savons, à toutes les époques, on a peint les temples, on a peint les édifices de la collectivité de façon extrêmement populaire et vivante. Il y a une création de peintres artisanaux non lettrés, qui étaient seulement des peintres professionnels méprisés des lettrés et qui étaient riches et savoureuses et créatrices aussi. Et que la Chine populaire a justement remise en valeur. Il faut la remettre en valeur et c'est juste et équitable.
L'autre aspect de vos recherches, c'est la littérature.
Oui. La littérature, d'un côté, la littérature moderne, c'est-à-dire la littérature justement qui s'est développée au cours de cette période très chaotique de la Première République.
Avec Lu Xun.
Avec Lu Xun principalement. Et alors, je m'intéresse aussi à différents aspects de la littérature classique. La prose, Han en particulier, l'historiographie, que je lis non pas comme document d'histoire, mais comme œuvre littéraire. Je travaille sur les vies exemplaires de Sima Qian, un historien donc, de l'époque des Han, qui est aussi un des plus grands écrivains de la prose chinoise classique. Et je m'intéresse aussi à certains domaines de la poésie classique, en particulier un type de poésie qui est la poésie dite à chanter. Sima Qian, ses vies exemplaires, il y a 70 biographies qui viennent à la fin de son monument. Ce que Sima Qian avait ambitionné de faire, c'était en fait une encyclopédie de la Chine, traiter de tous les aspects de la culture chinoise, de son histoire, des institutions, de la pensée, depuis les origines jusqu'à son époque, ce qui faisait déjà 2000 ans à son époque. Donc c'est une encyclopédie de la culture chinoise. Et la dernière partie sont 70 biographies, ou 70 vies exemplaires, où il passe en revue, en fait, tous les divers aspects de la condition humaine. Ce dont il traite dans ces vies exemplaires sont les philosophes, les poètes, les marchands, les étrangers, les bouffons de cour, les bons bureaucrates, les mauvais bureaucrates, les chevaliers errants, tous les types d'humanité possibles et imaginables sont représentés là-dedans, saisis dans des attitudes caractéristiques et exemplaires. C'est une espèce de miroir de la condition humaine, tel qu'un Chinois pouvait l'avoir il y a 2000 ans, et en réfléchissant sur ce que lui avait proposé 2000 années d'expérience antérieure. Et alors, parce que c'est une œuvre littéraire, admirable point de vue qualité de la prose et procédé d'expression littéraire, ça se lit autant de romans, ces vies exemplaires sont devenues pour l'imagination et la sensibilité chinoise un peu, disons, ce que dans le monde anglo-saxon, la Bible et Shakespeare sont devenus. C'est-à-dire que dans toute situation qui vous arrive concrètement dans la vie, vous pouvez faire référence à une parole d'un caractère de Shakespeare ou à un épisode biblique. Vous avez ces métaphores, ça vous propose ce bagage de métaphores à travers lesquelles vous pouvez déchiffrer et lire ce qui vous arrive à vous-même. Mais c'est à cela que correspondent dans l'ensemble les biographies de Sima Qian. Thank you.
cette seconde partie de notre invité du lundi, vous avez réuni Simon Leys plusieurs sinologues. Tout d'abord Marie-Claire Bergère, professeure à l'Institut national des langues et civilisations orientales, auteur d'un ouvrage sur la Révolution de 1911, publié chez Mouton, Lucien Bianco, professeur en histoire contemporaine de la Chine, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et auteur, entre autres, d'un livre important intitulé « Les origines de la Révolution chinoise » publié chez Gallimard, Siwi Tarai, auteur d'un livre sur les sans-fleurs publié chez Flammarion et collaborateur de la Quinzaine littéraire. Enfin, Jean-Philippe Béja, chercheur en politique extérieure chinoise qui rentre de Chine où il a séjourné depuis plus d'un an. Simon Leys, tout à l'heure nous évoquions avec vous le passé lointain de la Chine et plus précisément l'histoire selon ce matienne. Mais l'histoire, elle est là aujourd'hui, elle est présente avec la réhabilitation possible de Deng Xiaoping.
Pour ce retour de Deng Xiaoping, il faut d'abord se rappeler ce qu'a signifié sa première réhabilitation effectuée par Zhou Enlai. Ce à quoi Zhou Enlai s'était employé durant toutes les dernières années de sa vie, c'était en fait à reconstruire une digue militaro-bureaucratique contre le possible retour de la vague maoïste d'une éventuelle révolution culturelle. Zhou Enlai s'était donc employé à restaurer, à réhabiliter tout l'ancien appareil bureaucratique. Cette entreprise avait été menée à bien et avait largement réussi au niveau provincial. Et la réhabilitation de Deng Xiaoping a marqué vraiment son sommet, son point culminant. Cette première réhabilitation de Deng Xiaoping signifiait en fait le désaveu de la révolution culturelle et la fin de l'ère maoïste. Il faut se rappeler en effet que représente Deng Xiaoping. Deng Xiaoping représente tout ce contre quoi le maoïsme s'est insurgé et a combattu. La révolution culturelle était dirigée contre Liu Deng, Liu Shaoqi et Deng Xiaoping. Si Zhou Enlai n'a pas réinstallé Liu Shaoqi, c'est simplement pour la seule raison que Liu Shaoqi était déjà mort. Faute de Liu Shaoqi, on se contente de Deng Xiaoping, ce qui n'est d'ailleurs pas peu de choses, étant donné l'envergure et la carrière du personnage. Deng Xiaoping, durant la révolution culturelle, nous savons par les gardes rouges qui ont diffusé un bon nombre de citations de Deng Xiaoping. Nous savons donc ce que Deng Xiaoping représente. Ces citations étaient supposées à l'époque créer l'indignation populaire au sujet de Deng Xiaoping. Je pourrais par exemple vous en citer l'une ou l'autre. Voici ce qui, voyez donc sur les actes d'accusation contre Deng Xiaoping. Deng Xiaoping s'était permis de dire « Les gens sont mal habillés et mal nourris. Nous avons tenu trop de discours creux. La situation économique est désastreuse. Tout système qui pourra amener les paysans à produire plus, qu'il soit collectif ou individuel, doit être encouragé. Peu importe que le chat soit noir ou qu'il soit blanc, il suffit qu'il attrape les souris. » Plus bon nombre de citations dirigées contre Mao Zedong. On ne peut pas dire que la dénonciation de Staline ait été une erreur. Nous devons lutter contre le culte de la personnalité. Notre unique chef est le parti lui-même. La direction devrait être collective. Le pouvoir de prendre les décisions ne devrait pas être abandonné à un individu. On ne peut quand même pas forcer les gens à lire du Mao Zedong à longueur d'année. C'est les faire périr d'ennui. Et alors aussi, ces citations sur la primauté de l'expert sur le rouge, le principal devoir des étudiants est de bien apprendre leur discipline spécifique, etc., etc.
Et pourtant, Deng Xiaoping revient maintenant apparemment au pouvoir.
Et précisément, tous ces propos qui étaient censés créer l'indignation à l'égard de Deng Xiaoping sont ceux sur lesquels s'est fondée son immense popularité. Et donc, sa réhabilitation a été bien accueilli et par l'appareil bureaucratique et par la population qui, pour une fois, se trouvait unie sur un point précis, se trouvait unie par leur commune crainte à l'égard d'un retour offensif du maoïsme. Ça, c'était la première réhabilitation. Inutile de dire que pour le dernier carré de la révolution culturelle, les derniers survivants du leadership de la révolution culturelle, ce leadership qui avait été érodé au cours des années grâce à l'opération de restauration de Zhou Enlai, ce qui restait ce dernier carré, c'était Madame Mao et ses amis qui survivaient grâce à la protection personnelle de Mao Zedong. Ce dernier carré voyait évidemment avec angoisse sa base et son pouvoir de plus en plus rongé et diminué, a lancé une offensive désespérée pour tâcher de renverser la politique de Zhou Enlai, pour tâcher de condamner cette politique de restauration. Et alors, on a vu toute une série de campagnes, dont la plus spectaculaire a été la fameuse campagne contre Confucius, qui était en fait une campagne anti-Zhou Enlai, une campagne dirigée contre la politique de restauration. Zhou Enlai, vieux routier de la politique, renard expérimenté, a réussi à esquiver et désamorcer ses campagnes successives. Mais il est mort trop tôt, et à la faveur de sa mort, il était possible pour le groupe de Tianqing de lancer leur dernière offensive et de réussir cette fois à désarçonner Deng Xiaoping. Mais c'était une victoire très illusoire, comme on l'a vu, puisque le seul capital politique du dernier carré de la révolution culturelle était la protection de Mao, et Mao, une fois mort, privé de tout soutien, il a été aisé de les liquider. Et dès lors, la voie était ouverte pour reprendre cette ancienne politique de Zhou Enlai, qui avait déjà largement abouti et largement réussi à remettre en place toute l'ancienne infrastructure pré-révolution culturelle. Et dans cette perspective-là, il était tout à fait logique et normal de voir maintenant l'amorce d'un retour de Deng Xiaoping. Ce que nous voyons en fait, c'est la fin de l'ère maoïste, le désaveu de la révolution culturelle et le retour au révisionnisme de la pré-révolution culturelle.
Au-delà de ces péripéties et de cette crise de succession, je crois que si aujourd'hui on souhaite comprendre la révolution chinoise, il est un texte qu'il faut absolument lire. Ce texte s'appelle « Chinois, si vous saviez ». Il a été écrit par un groupe de gens. Ce groupe s'appelle Li Yizhe. Et je voudrais savoir pourquoi vous, sinologue, vous attachez tant d'importance à ce texte.
Je crois effectivement que c'est extrêmement important que finalement tout ce que nous disons, tout ce dont nous discutons, que nous écrivons, a peu d'importance et devrait être seulement un point de départ pour les lecteurs, pour attirer leur attention sur les voix chinoises. Ce sont les voix chinoises qu'il faut écouter en tout premier lieu. Et parmi ces voix chinoises, celle qui s'est exprimée de la façon la plus lucide, la plus complète et la plus percutante est, je pense, ce document de Li Yizhe, qui n'est pas entièrement isolé, parce que d'autres l'ont précédé, mais celui-ci, Li Yizhe, apparaît jusqu'à présent, il me semble, comme un point culminant, un sommet dans cette expression d'une critique contestataire de gauche du régime maoïste.
Mais en fait, Li Yizhe n'est pas un personnage, il est...
Li Yizhe, c'est essentiellement trois personnes dont les noms ont été confondus en un pseudonyme. Le principal rédacteur du manifeste étant Li Zhengtian et deux autres camarades. Des jeunes gens qui avaient fait la révolution culturelle, qui avaient été à la pointe du mouvement l'extrême gauche de la révolution culturelle, qui ont été ensuite victimes de la répression fascistes militaires de Lin Biao qui se sont retrouvés en prison et puis qui, après un séjour en prison, ont été relâchés et n'ont pas reçu d'affectation de travail et ont pu donc se consacrer entièrement à la réflexion politique. Ils ont mis leur loisir forcé bien à profit, comme on peut voir par la lecture du manifeste. Et ils ont réussi à profiter des fissures qui s'étaient créées dans l'appareil par les luttes pour le pouvoir au sommet pour placarder sur les murs de Canton, à la fin de novembre 1974, leur manifeste donc, sur l'égalité et la démocratie en régime socialiste.
Lucien Bianco, si le nom justement de Li Zhengtian apparaît comme étant le dernier mot de votre livre collectif sur Regard froid sur la Chine, je suppose que ce n'est pas un hasard non plus.
Oui, moi aussi j'avais été extraordinairement frappé par le courage et l'originalité de Li Zhengtian et des autres qui ont signé avec lui les Dazhebao, les journaux muraux de Li Yizhe. Je crois que c'était quelque chose de très nouveau et que rien effectivement d'aussi important dans ce domaine de la protestation, de l'expression d'une divergence par rapport au thème officiel. On n'avait pas entendu ça en Chine depuis longtemps, depuis de nombreuses années. D'autres indices plus récents, comme la fameuse manifestation sur la place Tiananmen du début avril, du 5 avril, et puis plus récemment même, dans le Genmin Je Parle lui-même, donc cette fois avec une sanction officielle, le 5 décembre, on voit publier des critiques sur le régime, qui sont évidemment infiniment moins percutantes, infiniment plus dans la ligne que celle de Li Yijie, mais tout de même, cela peut nous laisser penser que ça bouge enfin. Simplement, une fois mis en relief le caractère, je crois, à la fois prémonitoire du Dajibao de Li Yijie, et je crois qu'il faut tout de même ne pas peut-être exagérer ces indices. Le régime chinois n'a pas changé fondamentalement, parce que quelques voix isolées ont pu commencer à s'exprimer, et l'ont fait, et c'est pas indifférent que ce soit des gens qui avaient été à la pointe du combat maoïste, au fond, pendant la révolution culturelle, avant d'avoir été mis en prison très vite par les gens qui étaient alliés de Mao Tse-tung à l'époque. Mais je crois que il ne faut pas s'imaginer que maintenant que, disons, la bande des quatre et ceux qui bloquaient toute évolution démocratique, maintenant qu'il y a un début d'une libéralisation dans le domaine culturel, qu'on recommence à voir des films ou des opéras datant d'avant la révolution culturelle à Pékin, et que les gens s'y précipitent, et que quand on leur demande, on leur présente successivement plusieurs versions, une datant d'avant la révolution culturelle, une d'après la révolution culturelle, d'une pièce par exemple, et on leur demande le lendemain ce qu'ils en pensent, et unanimement, dans le débat qui suit, les gens disent avant la révolution culturelle, ça leur paraît plus riche. Donc, tout cela, c'est autant de signes, mais je crois qu'il ne faudrait pas s'imaginer qu'on a dès maintenant une possibilité d'ouverture démocratique. J'imagine plutôt que c'est comme les tout premiers dissidents qu'on a pu entendre en URSS il y a très longtemps. On n'en est pas du tout encore, non pas même bien sûr à la démocratie, non pas à la démocratie, mais pas même à l'époque des Solzhenitsyn, des Sakharov ou des Amalric.
Marie-Claire Berger, c'est votre avis?
Je voudrais revenir un peu sur le point de cette contestation. Elle est évidemment très importante, mais je la trouve personnellement ambiguë et en tout cas difficile à interpréter. C'est une contestation. Elle s'est exprimée dans le cadre officiel, à la faveur, vous l'avez dit, des disputes au sein de l'appareil même du parti. Elle prend donc la forme d'une attaque contre l'IMPIA, au moment où l'IMPIA a été discrédité. Qu'est-ce qu'elle représente ? Est-ce qu'elle représente un prolongement de l'action engagée pendant la révolution culturelle, c'est-à-dire une critique de gauche du régime, une critique qui remet en question l'existence même de ces structures, qui a un aspect anarchiste, un retour à la base, une critique par les masses de l'appareil, par certains aspects, oui. Mais d'autre part, il y a aussi, et c'est peut-être ce à quoi nous sommes peut-être davantage sensibles en Occident, cette espèce d'appel à la démocratie et cette ouverture libérale. Il dit la démocratie, après tout, n'est pas le monopole des réactionnaires. Être démocrate, ce n'est pas être réactionnaire. Et il y a cet appel à la démocratie. Donc les deux courants sont présents simultanément. L'un n'est peut-être que la façade de l'autre. Mais je trouve personnellement difficile de définir exactement ce que représente cette contestation.
Je pense effectivement qu'il y a eu... Le texte est très ambigu, comme vous le dites, parce qu'il n'était pas ambigu, il n'aurait pas pu paraître, il n'aurait pas pu exister. L'ambiguïté était sa condition même d'existence et de publication. Je pense aussi qu'il peut y avoir eu manipulation à un certain degré, et certainement une volonté délibérée chez les auteurs du manifeste de faire croire à une manipulation pour se protéger eux-mêmes. La manipulation, objectivement, a même peut-être pu exister. Rappelez-vous, pour prendre un autre exemple illustre qui est peut-être similaire, l'espèce de manipulation mutuelle qui a eu lieu entre Khrouchtchev et Solzhenitsyn au moment de l'apparition d'un jour dans la vie d'Ivan Denisovitch. Solzhenitsyn n'est pas un complice de Khrouchtchev, ni vice-versa, mais il y a eu objectivement, à un certain moment, à un court moment, un intérêt mutuel de part et d'autre à faire utilisation de l'autre. Et le même phénomène a pu jouer dans le cas de Li Yijie. Maintenant, en ce qui constitue les objectifs du manifeste, il me semble extrêmement clair et limpide et éclatant. Ils sont compris et inclus dans le titre même. C'est un manifeste en faveur précisément de la légalité et de la démocratie. Ce que les auteurs du manifeste demandent et exigent, c'est que la liberté d'opinion, la liberté de critique soit garantie et protégée par la loi et par la Constitution. C'est le point central du manifeste et je crois que c'est absolument capital. Ça, c'est l'aspect positif du manifeste. Ce qu'il demande, c'est que la liberté de critique et d'opinion soit garantie par la loi. Et en plus, sur le plan négatif, alors il s'applique à faire une analyse critique du système.
Jean-Philippe Béja.
À propos de ce que vous disiez, Marie-Claire Bergère, sur la démocratie et la légalité, finalement, pourquoi est-ce que la démocratie serait une idée de droite? Vous dites, il y a des aspects anarchisants dans le manifeste de Liège, et d'autre part, il y a une demande de démocratie. Mais je crois que c'est pas contradictoire, au contraire, c'est même complémentaire. Enfin, il y a tout un aspect libertaire chez Liège, qui, bien entendu, réclame plus de démocratie. La démocratie, c'est pas nécessairement la démocratie bourgeoise, et il l'explique très bien lorsqu'il dit il y aura deux tendances ou trois tendances, mais une tendance ne doit pas écraser l'autre tendance. Pour avoir une démocratie révolutionnaire, il faut que les deux tendances ou les trois tendances aient la même possibilité de s'exprimer. Et je pense qu'à ce moment-là, démocratie n'est pas contraire à marxisme libertaire et à contestation de gauche.
Lucien Biancourt, j'aimerais qu'on revienne à ce que vous disiez tout à l'heure au début, c'est-à-dire à la citation que vous faisiez du Génie Njuba, c'est-à-dire le quotidien du peuple, et à donc cette possibilité d'espoir, semble-t-il, qu'il existe peut-être maintenant, après la mort de Zhou Enlai, la mort de Mao et l'écartement des quatre.
Je crois que justement, enfin, il ne faut pas se faire trop d'illusions, enfin, exagérer l'espoir. Ce sont des signes extrêmement ténus de tout petits indices qu'on a. De même que la parution de ce genre de texte dans le Jianmin Zhebao, qui aurait été évidemment impensable avant, mais enfin, je répète, c'est un Dazhebao infiniment plus court, moins substantiel, moins virulent, moins percutant que celui de Liège. On a également, par exemple, maintenant des expositions sur l'existence de Mao avec un livre d'or qui est à la disposition, enfin non seulement à la disposition des visiteurs, mais ils sont vraiment fortement incités à donner leurs impressions. Et parmi évidemment des flots d'éloges habituels et de bonnes résolutions, on voit assez souvent à Caen une exposition similaire pour le camarade Zhou Enlai. Et cela aussi, cela où est déjà encouragé par une partie des certains éléments de la bureaucratie. C'est là quelquefois, semble-t-il, je ne peux pas donner de, je ne sais pas précisément pour ce détail-là, mais arrive à être formulé jusque dans la presse où il y a, et ça n'est pas encore des critiques voilées de Mao Tse-tung, mais enfin ça pourrait être le tout début d'amorce d'une démaoïsation. Mais je crois que en même temps, il me semble que les Chinois, dans leur joie, semble-t-il, leur libération, l'explosion de contentement d'être débarrassés des quatre, peut-être les malheureux se font-ils déjà des illusions, peut-être le retour de bâton va arriver. Ça n'est pas du tout, donc, Jean-Philippe Béja se plaçait sur le terrain de où on met la démocratie, valeur de droite ou de gauche. Moi, je voudrais sans du tout me préoccuper de jugement de valeur, de ce qu'elle est, de même pour les valeurs libertaires, l'anarchisme, de voir ce qui est possible ou vraisemblable en Chine aujourd'hui, et de ce point de vue-là, je crois très très peu réaliste de s'imaginer qu'une évolution démocratique accentuée, telle qu'on pourrait l'imaginer naïvement ici, soit vraiment prévisible dans un avenir assez rapproché.
Aux problèmes économiques et démographiques, la Chine en 1977, c'est avant tout probablement 900 millions de Chinois et un pays en voie de développement.
Vous venez de rappeler les facteurs qui pèsent le plus sur toute évolution qu'on peut tenter d'imaginer, c'est-à-dire la pression démographique et le fait que du point de vue économique, la Chine reste un pays sous-développé et que donc libéré de Mao, je continue à penser que cela a été accueilli et dans le peuple et chez les bureaucrates avec soulagement, la mort enfin arrivée de Mao, qui était un obstacle à une adaptation indispensable depuis longtemps de la société post-révolutionnaire, on peut penser que le plus probable est peut-être que cette fois, le développement économique va devenir la tâche prioritaire, avec toutes les conséquences que cela implique, développement des inégalités sociales, privilèges accordés aux techniciens et aux experts, recours aux stimulants matériels, aux importations de technologies venues de l'étranger, etc. C'est peut-être ce qu'on peut attendre et qui, évidemment, nous amène très, très loin des espoirs maoïstes, de ce qui a été tellement en vogue ici en France.
Et de l'idée même de révolution.
Oui, enfin, l'idée même de révolution, oui. C'est-à-dire que c'est même cela n'est pas sûr. À la limite, je serais encore bien plus pessimiste. Je pense que les possibilités de retour de révolution par en haut, car après tout, la révolution culturelle, comme les purges staliniennes à la terreur stalinienne des années 30, c'était une révolution par en haut, une pure de l'appareil bureaucratique du parti réussi en Chine. En Russie, mais avec la terreur, et qui a échoué en Chine, mais sans le même recours à la terreur, c'était donc une révolution par en haut. Je la crois. Elle a beaucoup plus de chances de se reproduire, bon, au fond, d'un maintien de ce que d'autres appelleraient le maintien de la ferveur ou d'une révolution permanente, s'il y a échec dans la course de vitesse entre développement économique et emballement démographique. Et je crois que le fait que, finalement, l'héritage était tellement différent que les conditions objectives que les communistes chinois ont rencontrées en arrivant au pouvoir étaient tellement plus contraignantes que celles que les bolcheviks ont trouvées dans la Russie, qui pourtant passait pour attarder et était attardée en 17, font que cette évolution elle-même est moins probable, elle a moins de chances de se réaliser qu'en Russie.
Marie-Claire Bergère, libérée de Mao
Je ne sais pas, c'est possible. Les solutions possibles sont très nombreuses, il est difficile de se prononcer, mais d'un point de vue plus fondamental, le possible est très limité et la marge d'action est très étroite. La marge de manœuvre, la liberté de manœuvre est très étroite à cause justement des impératifs que vous nommiez, l'impératif de la démographie. Il faut arriver à contrôler l'explosion démographique si on veut arriver à assurer le décollement économique. Et d'autre part, le décollement économique n'est pas encore assuré. La Chine est encore un pays sous-développé qui n'a toujours pas décollé, qui est en train de décoller mais qui ne l'a pas fait. Les problèmes de l'agriculture semblent en voie de solution, mais seulement en voie de solution. Avec 250 ou 270 millions de tonnes, la Chine assure juste ses besoins.
En céréales.
Il y a là une marge de manœuvre qui est très étroite. Quel que soit le régime, quels que soient les dirigeants, ils auront à faire face à ces deux impératifs et à adopter des solutions qui auront au moins un certain nombre d'éléments communs, la priorité à l'agriculture par exemple. Ceci dit, le vraisemblable, si l'on peut se prononcer sur le vraisemblable, ou une des solutions possibles et qui rend justement assez angoissant cette joie manifestée le 24 octobre sur Tiananmen, c'est qu'on retournera à un système de gestion extrêmement proche du système soviétique, proche de ce qui existait en Chine avant 57. Ceux dont justement voulaient se libérer, les étudiants des sans-fleurs, ceux qui protestaient en 56-57 contre le régime en place. Et il me semble qu'il y a de grandes chances qu'avec le triomphe de la bureaucratie, le triomphe des chefs de l'armée, que représente au fond l'arrivée de Hua Guofeng au pouvoir en septembre et octobre, on retourne vers cette sorte de régime. Donc je trouve le mot libération, je trouve la joie qui a été exprimée, un peu angoissante pour les gens qui observent cela de l'extérieur. Et pour en revenir à une question que nous avions évoquée tout à l'heure, quelles seraient dans le cadre de ce régime les possibilités de libéralisation comme il en a existé, comme il s'en est développé en URSS, quel pourrait être le rôle d'une intelligentsia libérale qui est censée incarner ici à nos yeux plus ou moins Li Jie. Je serais peut-être plus réservée que vous ne l'avez été, et pour des raisons de société et de culture. Il me semble que l'intelligentsia chinoise présente des ressemblances, mais aussi de profondes différences avec l'intelligentsia russe. Il existe évidemment ce courant contestataire et pris de liberté et de démocratie qui s'est exprimé au moment de du 4 mai 1919, qui s'est exprimé à Yan'an, qui s'est exprimé avec Lu Xun, qui s'est réexprimé à nouveau pendant les Cent Fleuves. Ce courant existe. Mais il existe aussi une tradition, et je me demande si elle n'est pas plus puissante, plus enracinée, d'intellectuels inféodés aux structures de l'État, de lettrés qui est partie prenante du pouvoir en place et qui aspire à exercer une part de ce pouvoir, en le contrôlant, en le critiquant, mais qui agit par référence à ce pouvoir, et plus ou moins à l'intérieur de ce pouvoir, même s'il prend parfois ses distances, c'est en tant que critique, mais critique partie prenante en même temps.
Simon Leys, vous qui êtes une sorte de lettré.
Je suis d'accord et pas d'accord avec ce que vient de dire Madame Bergère. Oui, effectivement, je pense que une erreur qui n'est pas celle qu'a commise, certainement Madame Bergère n'a pas commis cette erreur, mais une erreur qui est parfois commise en Occident est de penser ou de dire que la Chine n'a pas une tradition de contestation intellectuelle, ce qui n'est pas vrai. Mais il est vrai, comme dit Madame Bergère, que cette critique se fait dans le cadre d'une acceptation fondamentale des prémices et des principes de base du gouvernement qui existe. Mais enfin, l'idéal des lettrés, celui qui était illustré, disons, dès le XIe siècle par un homme comme Fan Zhongyan, avec sa devise « plutôt mourir en criant que survivre en silence », et qui était considéré toujours par les lettrés comme un homme dans la plus grande tradition de ce que doivent être les lettrés. Et ça remonte beaucoup plus haut. Parlions de Sima Qian. Nous sommes maintenant à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, où la même vérité est affirmée. Plutôt le non-non d'un honnête homme que les oui-oui de la masse. Vous pouvez remonter plus haut encore, même jusqu'à Confucius, dans l'idéal, ce qu'on lui prête, ce qu'on lui attribue, le fait qu'il aurait été l'auteur de l'histoire, le Chuanqiu, qui en fait était une critique du gouvernement. Il y a là une notion fondamentale dans la classe lettrée chinoise, que la fonction du lettré est d'être le critique du pouvoir. Comme le dit un principe confucien, un principe de Sunzi, le ministre obéit à la vérité, il n'obéit pas au souverain. Et ça, je crois que c'était un principe fondamental dans la grande tradition lettrée chinoise.
Mais on n'en est plus à Confucius, quand même, Simon Leysi.
Non, je veux simplement dire qu'il existe en Chine, qu'il est erroné de croire qu'une certaine tradition libertaire, de liberté de pensée, de liberté critique, soit un produit proprement occidental et un produit du XVIIIe siècle occidental. C'est une notion beaucoup plus ancienne et c'est une très vieille notion chinoise.
Oui, je suis d'accord avec ce point, mais ce que je voulais souligner simplement, c'est que ce droit de critique, ce devoir de critique du lettré traditionnel s'exerce à l'intérieur d'un système de valeurs qui est commun aux gouvernants et aux gouvernés.
Si oui, pareil.
Moi, je pense qu'il y a un amalgame, ou du moins un risque d'amalgame, et je voudrais revenir à deux exemples. Celui cité par Bianco, il faisait allusion à un texte publié dans le quotidien du peuple, je suppose que c'est celui de Li Chongquang, oui, qui est enseignant dans un institut de musique. Ce texte, c'est une critique du système, mais ça, disons, c'est pour apporter de l'eau au moulin, quoi. C'est contre Jiang Qing et le groupe de Shanghai. Et tout à l'heure, Béja parlait de la légalité et de la démocratie, en parlant du texte de Li Jiangtian. Et là, je voudrais soulever une question. C'est celle de la légalité socialiste. Je pense que chaque fois qu'on voit ces termes utilisés dans les textes officiels, moi je pense plutôt à la légalité de la bureaucratie. Je pense que la bureaucratie, dans le sens sociologique du terme, est une manifestation de la démocratie par rapport à la terreur, à l'arbitraire. Et c'est dans ce sens que je comprends la référence de Li Jiangtian à la légalité socialiste et à la démocratie. Je ne pense pas à une position anarchiste ou ultra-gauchiste sur la démocratie. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Li Jiangtian et je ne suis pas d'accord avec Mme Bergère. Parce que je pense que la misère politique ou la misère tout court ne peut pas constituer une condition idéale pour la manifestation d'opposition ou de courant nouveau, de courant politique nouveau. Et chaque fois qu'il y a eu des courants nouveaux, des gens qui ont pu s'exprimer et développer une critique du régime, c'est des moments où le pays se portait plus ou moins bien. Il y avait peut-être une crise politique, mais les gens ne crevaient pas de faim. Et là, la question qui se pose, est-ce que les gouvernants actuels, pour résoudre les problèmes que vous aviez soulevés, Mme Bergère et M. Bianco, est-ce que les dirigeants vont encore recourir à la terreur? Est-ce que la terreur est indispensable pour résoudre les problèmes économiques de la Chine?
Après-midi de France Culture, il est 16h20. Notre invité du lundi est aujourd'hui Simon Leys, avec aussi Marie-Claire Bergère, Lucien Bianco, Siwi Taraï et Jean-Philippe Béja. Le thème de ce dossier, la Chine des années 1980. Et je vous rappelle nos téléphones 520 05 50 525 78 06.
Il y a un point qu'il faudrait faire peut-être sur cette notion de faim, parce que les avis divergent complètement. Soit on dit depuis quelques années, au moins depuis 62-63, les Chinois mangent à leur faim, dans leur totalité pratiquement. Soit il y a des thèses absolument contraires qui disent, qui développent le fait qu'il y aurait eu famine et que le risque de faim n'est pas totalement aboli. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce point précis, Lucien Bianco?
Oui, évidemment, on a des informations, on a beaucoup d'informations partielles et on n'a pas de vue d'ensemble. Si vous voulez, en rentrant de Chine en 1974, quand j'ai passé une semaine à Bombay, dans la région de Bombay, j'ai été frappé par la misère apparemment beaucoup plus grande à Bombay, par les bidonvilles, par le nombre de mendiants squelettiques, etc. Mais en même temps, je me disais toujours, il est bien évident que si l'équivalent existe en Chine, je ne pourrais pas le voir, je ne verrais pas cette partie-là de la Chine. Alors, on en est réduit à interpréter, en ce qui concerne, par exemple, pour revenir à l'agriculture et une fois de plus à la production des grains, on peut penser que depuis que, renonçant à privilégier l'industrie lourde, comme on l'a fait dans les années 50, on a enfin, après la famine, alors la famine effective des lendemains du Grand Bond, et celle-là indiscutable, bien qu'elle ait été longtemps niée, on a donné sa part à l'agriculture, et ça veut dire essentiellement essayer de commencer à la mécaniser, à favoriser dans l'industrie elle-même les secteurs qui travaillent pour l'agriculture, production de tracteurs, mécanisation de l'irrigation, production d'engrais chimiques, ce qu'un homme comme René Dumont, en particulier la production d'engrais chimiques, depuis longtemps recommandait comme étant la priorité des priorités, et ce qui n'avait pas du tout, il a fallu, disons, dans les 27 années du régime, c'est au cours des 13 ou 14 dernières années que on a consacrer des investissements importants au service de l'agriculture.
Oui, ce qu'on peut signaler, Lucien Bianco, à ce propos, c'est que c'est justement Hua Guofeng qui dirige maintenant la Chine, qui a publié un rapport, je crois, sur la mécanisation de l'agriculture et qui doit la prôner, donc, non?
Oui, non, mais je pense qu'il me semble que parmi ceux qui, il y a naturellement des tendances différentes, mais parmi ceux qui se sont mis d'accord pour se débarrasser de la veuve de Mao Zedong et de ses... enfin de ceux qu'on présente comme ses acolytes, enfin de la bande des quatre, eh bien, il y a accord en gros sur la priorité au développement économique et à l'intérieur du développement économique, priorité au développement agricole. Et on constate que, enfin, une progression lente, pas du tout spectaculaire, mais avant c'était stagnation, peut-être de 3% par an, c'est-à-dire de la production des grains alimentaires, c'est-à-dire pas tellement plus que la progression démographique, mais enfin, qui peut permettre un décollage. On constate aussi que les mauvaises années sont beaucoup moins mauvaises qu'elles étaient auparavant. C'est encore une agriculture qui n'est pas délivrée des fluctuations météorologiques, et cela commande encore tout, mais enfin, dans, même à l'époque du premier plan quinquennal et pendant le grand bond, un recul pourrait être un recul de 10-15 millions de tonnes sur un chiffre absolu qui était lui-même inférieur à ce qu'il est aujourd'hui, sur 180 ou 185 millions de tonnes. Aujourd'hui, un recul semble être, en mauvaise année, comme en 72, en année de sécheresse, de 4 millions de tonnes ou 5. On commence à contrôler les fluctuations. Bon, est-ce que cela suffit? C'est extrêmement difficile, on ne sait pas. On connaît ni le chiffre exact de la production, ni le chiffre de la population chinoise, on ne le sait pas, ni l'efficacité de la planification des naissances, et comment l'accroissement naturel a diminué au cours de cette dernière décennie. Donc, il est impossible. En gros, il semble bien que depuis la famine des lendemains du Grand Bond, il n'y a plus l'équivalent. Mais dès que les contrôles politiques, simplement, se relâchent un peu, on a des témoignages qui nous parlent de mendiants, de mendiants plus ou moins brigands, prenant d'assaut les trains, comme pendant la Révolution culturelle. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la Révolution culturelle, il y a conséquences, répercussions dans le domaine économique des troubles politiques et donc moindre production. En gros, l'agriculture a été beaucoup plus épargnée que l'industrie des conséquences dommageables de la révolution culturelle, mais c'est plutôt qu'avant, la police était assez efficace en année normale pour empêcher, disons, enfin je parle des mendiants de prendre d'assaut les trains ou des brigands du Hanrui, très célèbre, c'est une des provinces qui a le plus souffert au lendemain du Grand Bond et depuis, de se répandre dans beaucoup de régions et où on a des témoignages évidemment qualitatifs, subjectifs, partiels, peut-être quelquefois malveillants, de gens qui ne peuvent pas, enfin dans un restaurant modeste, dans une ville comme Refai, la capitale du Hanrui, ne peuvent pas finir de manger leur bol de soupe ou leur offre en le recommandant plusieurs fois. Il y a toujours des mendiants autour qui sont là à essayer de les attraper. Bon, je crois quand même que, pardon, je dis juste un dernier mot, quoi, on est laissé avec des témoignages qualitatifs, quelquefois inquiétants, je vais en citer, mais il y en a d'autres, et en même temps, tout de même, et c'est quand même là-dessus que je voudrais insister, sur une impression un peu plus optimiste, à partir du moment où on a enfin décidé de faire à l'agriculture sa part, elle a commencé à démarrer, à décoller.
Jean-Philippe Béja, vous qui revenez de Chine, vous avez votre point de vue, même s'il est subjectif, vous avez des images qui vous restent. Vous n'étiez pas à Pékin, je le rappelle, vous étiez à Shenyang.
J'ai vu très peu de choses de la campagne chinoise et c'est l'un des problèmes pour tous les gens qui séjournent en Chine. On séjourne dans des villes, alors le plus souvent on séjourne à Pékin ou à Shanghai. On a eu la chance de séjourner à Shenyang, qui est une ville qui est presque originale, mais qui, je le rappelle, est une ville de 4,5 millions d'habitants, qui est donc très importante et qui est une capitale industrielle. Mais pour ce qui est de la campagne, ce que je peux dire, c'est que les conditions du Liaoning sont moins bonnes que celles de Pékin, ou que celle de Shanghai, ou que celle du sud.
Le Liaoning est au nord-est.
Au nord-est de la Chine. Le problème est un problème de qualité de céréales. C'est-à-dire que dans le Liaoning, qui est devenu depuis 1975 une province autosuffisante, on a peu de riz, on a beaucoup de kaoliang, de sorgho, et de blé et de maïs. Ce qui fait qu'effectivement, la qualité nutritive est inférieure à celle du Guangdong, par exemple, où on mange beaucoup de riz. Et les Chinois sont les premiers à vous dire que les conditions du Liaoning ne sont pas très bonnes. Cependant, il est bien évident que dans tous les endroits où je suis allé, et j'ai visité quelques communes populaires dans le Liaoning, mais également dans toute la Chine, j'ai vu des gens qui mangeaient à leur faim.
Je voudrais ici citer Jean-Luc Domenac. C'est un texte qui date de décembre 1975 et qui est publié dans Regard froid sur la Chine et qui répond un peu d'une certaine manière à ce que vous venez de dire, Lucien Bianco. C'est sa conclusion. Hein. Il dit qu'il y a deux possibilités en Chine actuellement. C'est l'une, accorder la priorité au développement économique et à l'épanouissement national, ou poursuivre en premier lieu la révolutionnarisation des esprits et la mutation sociale.
Je ne suis pas d'accord parce que les gens croient que plus les gens sont misérables, plus ils sont révolutionnaires. Il y a un mythe qui veut que plus la Chine est fliquée, plus les ouvriers en Chine bossent pour du vent. En fait, c'est ça. Ils vivent de courant d'air. et plus ils sont révolutionnaires. Ce qu'il faut, c'est seulement l'expression d'une exploitation excessive, d'une répression inimaginable. Et je pense, là, je ne suis pas du tout d'accord non plus avec ce qu'avait dit Marie-Claire Berger tout à l'heure. Moi, je suis pour le révisionnisme en Chine, dans la mesure que où le révisionnisme, c'est un peu moins de terreur et un peu plus de démocratie. C'est tout.
Je ne serais pas contre. Je dis simplement que ce serait jouir d'une chose qui est moins mauvaise que d'une autre. C'est tout.
Oui,
mais je ne suis pas contre ce que vous dites.
Je suis tout à fait d'accord.
D'autre part, quand vous dites plus les gens sont que vous réfutez l'idée que plus les gens sont misérables, plus ils sont révolutionnaires, je ne pense pas que ce soit exactement comme ça que ça se passe en Chine, ou du moins ce que nous avons pu en percevoir. C'est que nous avons vu que chaque fois qu'ils se consacraient à la révolution à temps complet, c'est-à-dire plus ils étaient révolutionnaires, que ce soit spontané ou inspiré, moins leur production avançait. C'est-à-dire que des grandes périodes de mobilisation révolutionnaire ont souvent coïncidé avec un déclin, un recul ou à la rigueur avec une stagnation de la production.
Oui, parce qu'en fait, assez souvent, ce qu'on appelle ici révolution, ou bien c'est une manifestation de la folie de certains dirigeants, ou bien c'est une lutte pour le pouvoir qui est masquée par des objectifs pseudo-révolutionnaires.
Oui, Lucien Bianco.
Oui, moi aussi, pour répondre aux deux perspectives ouvertes par Domnac. Bon, non seulement moi aussi je préfère le révisionnisme, mais je crois que l'autre n'est guère possible, qu'il n'y a pas tellement de possibilités comme Domnac les présentait. Moi je crois qu'il y en a pratiquement une, c'est la moins mauvaise, et c'est là où je crois qu'on est finalement plus d'accord qu'on l'imaginait, mais les uns et les autres, c'est-à-dire que il faut bien mettre en garde, comme Marie-Claire Berger l'a fait, la joie peut être hâtive, les espoirs illusoires. C'est vraiment, elle avait raison me semble-t-il de dire que ceux qui se révoltaient en 57 contre les bureaucrates seront encore, une fois de plus, dupés. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, je crois que c'est le moindre mal. Les pires ont été éliminés, d'où la joie d'une grande majorité du peuple chinois aujourd'hui.
Jean-Philippe Béja.
À propos de la légalité, effectivement, je suis d'accord. La légalité, je crois que c'est une revendication minimum. Quant à dire on préfère le révisionnisme, oui, on préfère le révisionnisme par rapport à quoi? C'est-à-dire si le choix est entre la bande des quatre et la bande à Hua Guofeng, ou peut-être le nouveau gouvernement chinois, le grand président Hua Guofeng, on préfère peut-être le révisionnisme. Mais ce que je pense qui est intéressant dans l'affaire de Li Zhengtian, c'est que Bianco disait tout à l'heure les choix qui se posent à la bureaucratie chinoise. Et je crois que c'est vrai, le choix maintenant, c'est le développement économique. Il n'y en a pas 36. Mais ce qui est important, c'est que justement, en parallèle à cela, il y ait un mouvement de contestation. Alors évidemment, on ne connaît pas son importance dans les masses, mais après tout, on ne sait rien des masses chinoises, on ne sait rien de leur pensée politique, finalement. Sauf une espèce d'agrément autour d'un régime, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas encore renversé. Et tant qu'ils ne l'auront pas renversé, on dira « les masses chinoises se soumettent au régime chinois ». Mais ce qui est important, c'est qu'il y a justement des graines de contestation. Et alors là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment très important. La revendication de démocratie, c'est beaucoup plus. La légalité, c'est le minimum. La démocratie, ça peut déjà être une sorte de maximum. Et ça peut entraîner un mouvement beaucoup plus vaste qui permettrait de limiter le pouvoir de la bureaucratie. Et je crois qu'il faut toujours être attentif aux petits signes. Finalement, en avril 1968, tout le monde pensait que la société française évoluerait sans aucun problème et sans aucun à-coup. Et puis, il y a eu mai 68. Alors, je pense qu'il faut quand même regarder un peu les gens comme Li Zhe et les autres issus de la révolution culturelle.
Lorsqu'on vous écoute, on a quand même le sentiment que le tableau est sombre malgré tout. Et je me demande s'il ne reste pas des acquis de la révolution culturelle. Je me demande si les acquis économiques qui sont ceux de la Chine aujourd'hui ne sont pas préservés et ne vont pas encore se renforcer. Et je me demande si une société nouvelle, quelle qu'elle soit, révolutionnaire ou non, ne va pas apparaître quand même en Chine, ni celle rêvée par les maophiles, ni celle rêvée par les maophobes, ou les ex-maophiles, les ex-maophobes. Marie-Claire Berger.
Qu'une société nouvelle se dégage progressivement en Chine, c'est vraisemblable. Au fur et à mesure que l'évolution économique progressera, au fur et à mesure qu'une partie de l'intelligentsia, comme l'évoquait Civitarai, trouvera sa voie dans des postes techniques ou des postes de compétences précises, se dégagera de plus en plus cette classe moyenne, experte, compétente, professionnelle, qui donnera sans doute au régime une solidité, une stabilité plus grande.
Mais c'est l'échec de la révolution.
C'est la fin d'un mythe.
Oui. Vous savez, par une révolution, on peut toujours faire que très très peu de ce qu'elle a ambitionné au début. Il est bien sûr qu'on ne peut pas considérer si une révolution avait échoué parce que finalement elle ne réalisait absolument pas du tout ce qu'elle prétendait réaliser, elles auraient toutes échoué, c'est bien évident. Or, il y a un autre point de vue, un autre lieu où on est bien obligé de dire que par-delà les mensonges, le despotisme du maoïsme, la révolution chinoise a réalisé en un quart de siècle des transformations considérables et urgentes. Donc, ça sera une autre société. Est-ce que c'est l'échec de la révolution? C'est effectivement, comme vient de le dire Civitarin, l'échec d'un mythe, ça c'est certain.
En outre, la révolution n'était pas seulement un projet d'émancipation et de libération sociale, c'était aussi un projet d'émancipation nationale, et de ce point de vue-là, elle a réussi, et c'était un projet de progrès économique, et de ce point de vue-là, on a de bonnes chances d'espérer qu'elle réussira.
Simon Leys.
Je crois que là, Che Guevara l'a peut-être dit de la façon la plus juste, une révolution échoue si elle ne change pas l'homme. Pour ce qui est de développer économiquement un pays, peut-être que le capitalisme ou le révisionnisme ou d'autres formes est plus efficace.
Tout de suite, justement, vous avez fait allusion au nationalisme. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que la Chine s'ouvre aussi et qu'elle découvre le monde extérieur pour, justement, qu'il y ait peut-être un réajustement par rapport à la réalité?
Là, je crois que ça a été un des problèmes, parce que si la Chine a fini par être partagée, bouffée par les puissances étrangères, c'est parce qu'à une époque, elle avait refusé de s'ouvrir au savoir technique et autres qui venaient de l'Occident. Et c'est le problème qui est au centre, en fait, de tous les conflits sur la ligne économique. Est-ce qu'on va développer le pays en ayant recours à l'importation de techniques nouvelles, etc., ou alors on va faire une économie autarcique et on va bricoler un peu avec les moyens du bord? Ça, c'est un problème effectif. Mais il y a aussi un autre aspect du nationalisme qui est seulement la Chine qui devient une nation. Il n'est pas sûr qu'elle le soit déjà. C'est-à-dire que le régionalisme est assez puissant, et c'est depuis 49 seulement qu'il y a un gouvernement central respecté plus ou moins par tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui se décide actuellement à Pékin est appliqué nécessairement et de la manière dont le souhaitent les dirigeants du centre partout en Chine.
Lucien Bianco.
Oui, vous posez le problème du nationalisme et de l'ouverture à l'étranger, à l'extérieur. Je crois que tous étaient nationalistes, maoïstes et anti-maoïstes. Le nationalisme a été la composante centrale de la révolution chinoise dès l'origine. Je crois que les premiers qui se sont convertis au marxisme se sont convertis par nationalisme. Mais c'est donc déjà plus un problème de méthode, de voie, de mieux servir la patrie. Et on peut très bien soutenir, moi ce serait ma tendance, que les gens qui sont partisans de l'ouverture à l'étranger, des échanges économiques, de l'utilisation d'une technologie qui fait encore défaut à la Chine, sont des nationalistes plus conséquents que les chauvins, les xénophobes qu'incarne assez bien le courant maoïste. Et là, je voudrais faire aussi une autre parenthèse. Souvent, sur l'échiquier politique chinois en France, le courant maoïste a été représenté comme la gauche. C'est faire bon marché de tous ces courants qu'on peut appeler conservateurs, réactionnaires, obscurantistes, xénophobie, soit esprit de clocher. Je parlerais presque à la limite d'un poujadisme rounanais, d'une méfiance à l'égard de l'autre, à l'égard de la ville, de la volonté de maintenir pure non seulement la révolution mais et la patrie, mais également la campagne, le monde paysan. Et il y a une méfiance à l'égard des villes. Donc, naturellement, Shanghai en est le symbole. Et on ne le reproche pas seulement d'avoir été contaminé par l'impérialisme, d'en avoir gardé quelque chose après tout ce siècle impur. Mais la ville, c'est les germes dissolvants. C'est vraiment ce qu'on appellerait chez nous l'esprit de clocher, ce nationalisme-là.
Le Hunan étant, je le précise, la province natale de Mao. Marie-Claire Bergère.
Oui, je crois que le problème de l'intégration de la Chine au courant de la civilisation mondiale et à la scène internationale est extrêmement important et qu'il devient maintenant de plus en plus important, à la fois d'un point de vue économique et aussi diplomatique. Mais il me semble bien qu'il faut le considérer dans une perspective un peu plus longue, une perspective historique. Vous dénoncez le rounanisme, le poujadisme rounanais. Oui, c'est vrai, mais après un demi-siècle ou plus de statut semi-colonial, la Chine ne pouvait pas envisager une ouverture à l'Occident et une intégration à la civilisation mondiale à partir de la situation de faiblesse où elle était. Il fallait absolument qu'elle se reconstitue en tant que nation et qu'elle retrouve une position de force pour pouvoir s'ouvrir au reste du pays, au reste du monde. Maintenant où l'on peut penser qu'est plus ou moins acquise l'existence de la Chine en tant que nation forte, peut se poser, est venu le moment que l'on pose le problème de l'intégration de la Chine à la civilisation mondiale.
Au début de ce dossier, Simon Leys, on évoquait le retour en force et la réhabilitation possible de Deng Xiaoping. Est-ce que vous croyez que si Deng Xiaoping revient au pouvoir, nous vivrons des modifications dans l'ordre des choses entre la Chine et le monde ?
Je pense que oui, dans la mesure où le retour de Deng Xiaoping représente précisément un retour et un développement de la politique de Zhou Enlai. Un des grands points de conflit entre Zhou Enlai, la ligne de Zhou Enlai, qui est aussi celle de Deng Xiaoping, et la ligne des radicaux maoïstes, était justement cette question de faut-il ouvrir ou fermer la Chine. Ici, le groupe radical maoïste se montrait absolument l'héritier des cercles réactionnaires du vieil empire mandchou, de la cour mandchou à la fin de l'empire, en ce sens que exactement comme autrefois les réactionnaires préconisaient de préserver l'essence nationale à tout prix et donc de se protéger de toute contamination avec le monde extérieur, de nier le monde extérieur, de même les maoïstes ont peur aussi de la contamination, de tout ce qui pourrait menacer la pureté de la doctrine maoïste. Il faut maintenir cette doctrine dans sa pureté native. Il faut éviter tout ce qui pourrait l'adultérer ou la contaminer, et entre autres les contacts avec l'extérieur, les contacts, l'importation de la technologie étrangère, etc. Leur foi est au contraire que l'idéologie seule peut être un substitut valable pour la technologie, tandis que le groupe Zhou Enlai, Deng Xiaoping, pense à l'inverse qu'il est essentiel pour le développement de la Chine que la Chine s'ouvre, que la Chine s'adapte au monde extérieur, que la Chine emprunte les armes du monde extérieur pour confronter à égalité celui-ci.
Finalement, vous êtes optimiste aujourd'hui ?
Ça dépend de quel point de vue on se place. Il est évident de toute manière que la chute d'un groupe xénophobe, réactionnaire et obscurantiste est une chose qui doit être, une occasion pour nous de se réjouir. Ceci dit, la perspective de voir la Chine gouvernée par une élite bureaucratique et technocratique n'est pas une perspective très enthousiasmante non plus. Le précédent soviétique est là pour nous éclairer sur les limites d'une telle évolution. Ceci dit, cette évolution fournira quand même un contexte économique, politique et social dans lequel pourra plus facilement se développer une contestation profonde et authentique parmi la jeunesse qui de plus en plus pense et souhaite reprendre sa destinée en main et ne pas abandonner son sort aux mains d'une caste bureaucratique.
C'était l'invité du lundi, le sinologue Simon Leys, par Claude Hudelot, avec également Marie-Claire Bergère, Jean-Philippe Béja, Lucien Bianco et Siwit Arey, une émission diffusée pour la première fois dans les après-midi de France Culture le 10 janvier 1977. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.